femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct depuis nos studios de Ferney, où vous pouvez nous appeler pendant nos émissions en direct. C'est tout simple, vous composez le 50 40 51 41, je répète 50 40 51 41 059 si vous habitez Genève voisine. Et vous pouvez à ce moment-là soit intervenir dans l'émission qui est en cours, soit nous proposer des idées, soit vous proposer comme soutien à Radio Zone et à Onde Femme en achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 100 francs français. Et c'est très simple, vous nous donnez votre adresse et nous vous envoyons la carte en question avec un bulletin de versement. Et nous en avons très très besoin, bien évidemment. On n'ose plus le dire parce que c'est tellement un besoin permanent que ça devient une évidence, on ne le mentionne presque plus. Aujourd'hui, dans Remue Ménage, je vous propose un deuxième volet d'une émission, enfin pas une émission, mais peut-être d'une rubrique que je vous avais proposée le 11 septembre dernier. C'est l'idée de régulièrement évoquer un voyage que l'une ou l'autre d'entre nous a pu effectuer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du globe pour parler de ce voyage, mais l'idée est la suivante, c'est de confronter notre regard de femme voyageuse, ou qui voyage pour être plus modeste, avec le regard de quelqu'un qui a écrit, pas seulement regardé, mais aussi écrit sur la région, le lieu que nous avons justement eu la chance de visiter. Parce que je me suis aperçue, moi aussi dans les quelques voyages que j'ai pu effectuer, que lorsque l'on a envie de consulter un guide ou lire le récit que quelqu'un a pu faire de voyage, eh bien c'est toujours assez magique de confronter son propre regard, son propre vécu avec ce qui a été écrit. Et donc très souvent il vaut mieux lire ses livres en rentrant ou sur place plutôt qu'avant. Quoique, bon, chacun a sa méthode, là, on vous laisse libre tout à fait dans ce sens-là. Mais l'idée est celle-ci, c'est de confronter votre regard de voyageuse avec les textes que vous avez pu découvrir avant, pendant ou après votre voyage pour le lieu où vous êtes allé. Alors, je me proposais comme cobaye de cette nouvelle rubrique que j'appellerais « Carnet de route regard de femme » à travers mes yeux de femme. Et parce que je suis allée en Mongolie cet été, 3 semaines, et que justement au cours de mon voyage, parce que je n'ai absolument pas eu le temps de lire quoi que ce soit avant, au cours de mon voyage, eh bien, j'ai feuilleté un livre qu'a écrit une Française qui s'appelle Jacqueline Thévenet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les Mongols » de Gengis Khan et d'aujourd'hui, qui a été publié aux éditions Armand Collin. Et le livre qu'a écrit Jacqueline Thévenet a un peu alimenté mon voyage parce que, et au fur et à mesure que je découvrais, je pouvais le confronter en partie avec ce qu'elle écrivait dans son livre. Et puis en rentrant, eh bien, fort de toutes les images magnifiques que j'avais pu engranger pendant ces 3 semaines de séjour, j'ai eu encore envie de finir de lire, parce qu'en l'occurrence, celui que j'avais consulté pendant le voyage, j'ai dû le rendre. Alors, le livre tout neuf que je possédais tout à coup, avec bien moins de valeur parce qu'il n'avait pas traîné dans toutes les tentes, dans l'herbe, sur l'herbe de la steppe, feuilleté entre deux galops de cheval. Eh bien, mon livre tout neuf à moi, il fallait bien que je lui donne une vie. Alors je me suis dit, procédons de cette façon-là. Alors tout de suite, je vous emmène dans un bout de ma Mongolie, si je puis dire, confrontée à la Mongolie qu'a, elle, découvert et que nous décrit Jacqueline Thévenet dans son livre « Les Mongols » de Gengis Khan et d'aujourd'hui. Ça, c'est les chants que j'ai entendus lorsque j'étais moi-même sur place, chants qu'interprétaient les Mongols qui nous accompagnaient dans ce périple qui aura duré 3 semaines, d'abord 15 jours à plusieurs, une dizaine de Genevois ou Européens, Français, Allemands ou quelques-uns américains, et accompagnés d'un nombre à peu près équivalent de Mongols qui nous faisaient à manger, qui conduisaient le vieux bus russe qui nous accompagnait tout au long de ce périple et surtout ceux qui nous guidaient sur nos petits chevaux, parce que le voyage que j'ai effectué, j'ai eu la chance de l'effectuer à cheval depuis le campement d'une famille nomade au sud d'Oulan-Bator, la capitale, jusqu'à Karakorum, 300 km à peu près, un peu plus de steppes à parcourir sur le dos de nos petits chevaux. Et le retour, beaucoup plus vite cette fois-ci effectué en une semaine, en groupe très très restreint, puisque plus que 4, et sans accompagnement cette fois-ci, vraiment, selon le mode de déplacement des Mongols eux-mêmes, qui se déplacent de campement en campement, accueillis par les nomades qui leur ouvrent de façon incroyablement accueillante leur yourte non donnée à cette tente magnifique dans laquelle ils vivent. Eux, ils l'appellent gur, mais yourte est le nom turc donné à cette tente que nous, en français, nous utilisons. Alors, la première fois que je vous ai parlé de la Mongolie et que je vous l'ai fait découvrir, confronté à ce que Jacqueline Thévenet en avait écrit, nous avions évoqué les paysages, le climat, les saisons et ce paysage magnifique de la steppe dans laquelle j'ai moi-même voyagé, qui est une partie de la Mongolie. Rappelons peut-être que la Mongolie se situe coincée entre le bloc immense de l'ex-Union soviétique au nord et puis au sud, et enfin sud et est, et la Chine, l'immense Chine, dans laquelle est comprise ce que l'on appelle la Mongolie intérieure, puisque la Mongolie dans laquelle moi-même j'ai voyagé, c'est la Mongolie dite extérieure, mais surtout Mongolie indépendante, république démocratique, république populaire de Mongolie, pardon. Alors, c'est bien sûr tout les saisons, le climat, les paysages, tout ça influence absolument, là, catégoriquement, le mode de vie des gens qui vivent sur cette terre, les Mongols. Et bien sûr, lorsque vous vous mettez à vivre pendant un petit bout de temps avec eux, eh bien, vous êtes vous aussi influencé énormément par ce paysage qui est d'une beauté impressionnante, qui vous envahit chaque jour un petit peu plus et vous apportant, si vous le souhaitez et si vous en avez envie, l'immense sérénité que ces grands espaces peuvent amener à notre esprit restreint et fermé dans les villes, même si en Suisse on a quand même la chance de pouvoir aller s'ouvrir les yeux sur les grands espaces en montant ou des montagnes, mais là il n'y a pas vraiment besoin de faire cela. Le ciel s'ouvre à vous et la terre s'ouvre à vous dans toute son immensité. Alors aujourd'hui, eh bien, je vous propose de découvrir 2 nouveaux aspects. C'est d'abord ces gens justement, les Mongols, ces nomades qui sont nomades à 70% sur les 2 millions d'habitants actuellement en Mongolie, qui sont des gens magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'en dit Jacqueline Thévenet et qu'est-ce que j'ai à vous raconter au vu de mes découvertes? Et puis, les gens, ils ne sont pas tout seuls, jamais. Ils vivent avec leurs bêtes, leurs animaux et aussi ces animaux qui sont là de façon permanente, qui sont les compagnons de ces gens qui les font vivre et qui sont forcément nos compagnons aussi lorsque nous voyageons proche d'eux. Alors, tout de suite, nous partons découvrir les gens en Mongolie avec le texte que nous propose Jacqueline Thévenet.
«
Le mongol est de taille moyenne, d'aspect robuste et trapu, de pigmentation cuivrée et de faible pilosité corporelle. Son visage, large et plat comme la steppe, est rehaussé de pommettes saillantes, d'un petit nez droit bien dessiné et d'yeux bridés à l'iris généralement foncé. Les cheveux sont épais et raides, le plus souvent noirs ou châtains. Le rythme cardiaque est plutôt lent et le groupe sanguin B prédomine. À la naissance, on observe fréquemment au bas du dos la tache mongolique, dite aussi tache bleue. Du point de vue du caractère, le mongol est généralement joyeux, bon vivant. Il aime boire et festoyer. Sous les apparences un peu rudes que lui ont façonné des siècles de vie nomade, il a l'esprit fin et perspicace. Pour atteindre ses buts, il emploiera davantage la ruse que la force. Les femmes en particulier font preuve d'une rare ingéniosité et d'un savoir-vivre raffiné. L'endurance des cavaliers mongols et leur adresse à la lutte et au tir à l'arc sont proverbiales. Mais les hommes s'emportent facilement. Très susceptibles sur tout ce qui touche à leur passé et à leur indépendance présente, ils savent afficher à l'égard de qui les offense un dédain glacial. Le respect des anciens, le culte des ancêtres et l'observation des règles élémentaires de la politesse demeurent en plein XXe siècle des valeurs qu'ils n'acceptent pas de voir bafouées. Alors, moi aussi, j'ai découvert ces gens au large visage plat comme la steppe, ce critère que l'on dit être le critère des beautés, de beauté pour que les femmes soient choisies par leur futur mari. Et ce que l'on peut constater, c'est que ces visages, en tout cas, ils sont multiples, tout comme chez nous, bien évidemment. Il n'y a pas un visage mongol, il y en a des dizaines et des centaines de différents. Mais il est vrai qu'il y a des points communs. Il y a ce visage rond de face de lune, il y a ces yeux bridé, toujours rieur. Vraiment, je crois que quelqu'un vous regarde, soi-disant normalement, mais il vous donne déjà l'impression de rire, ce rire des yeux rehaussé par les pommettes surélevées que portent les Mongols. Et puis ce sourire absolument magnifique, des dents parfaites. Nous parlerons de leur régime alimentaire qui n'est pas aussi riche et varié que ce que l'on peut nous manger sous nos latitudes, mais qui leur assure un physique magnifique. Les gens sont très minces, ils sont élancés, de taille moyenne, à peu près notre taille, effectivement. Et ils ont un sourire magnifique parce que leurs dents sont en parfait état, malgré ce régime alimentaire que certains pourraient trouver insensément déséquilibré. Bah, il doit y avoir un miracle, il doit y avoir une solution magique dans ce qu'ils mangent, parce qu'en tout cas, leurs dents sont magnifiques. À part peut-être quelques vieux qui accrochent entre leurs dernières dents un vieux mégot qui traîne, mais ça c'est vraiment les personnes âgées. Et puis, il y a ces visages multiples, mais qui ont quelque chose d'incroyable, parce que parfois on a l'impression de déjà-vu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Eh bien, même à l'autre bout du globe, même dans cette Mongolie lointaine, il y a certains visages que j'avais l'impression d'avoir déjà vus. D'abord, de toute évidence, un lien ethnique. Certains de ces personnes, il suffisait qu'ils ne soient pas tout à fait habillés selon la mode traditionnelle mongole, c'est-à-dire portant le dil, ce grand manteau, plus ou moins long, suivant qu'il est porté par les hommes et par les femmes, avec accroché de côté avec un petit col droit et puis avec une large ceinture de couleur portée taille basse pour les hommes, à la taille normalement pour les femmes et beaucoup plus serrée. Eh bien, il suffit que l'un ou l'autre de ces personnes ne porte pas ce vêtement traditionnel, qu'il soit habillé un tout petit peu à l'occidental, et vous croirez avoir devant vous un Amérindien à qui on aurait aussi supprimé les caractères typiques de ses vêtements, qui n'aurait plus les cheveux longs et qui serait habillé à l'occidental aussi, à l'américaine. Eh bien, vous croyez voir ces gens mélangés. On se demande s'il n'a pas traversé le détroit de Bering il y a quelques semaines de là pour venir rendre visite à ses parents mongols. Mais d'autres déjà vus, beaucoup plus incroyables, ceux-là. Être confronté, par exemple, un jour, comme je l'ai été, sous une yourte, à une femme, j'étais fascinée devant elle parce qu'elle me rappelait, mais vraiment comme deux gouttes d'eau, le visage d'une femme rencontrée dans un café à Evelyn. Elle tient un café-restaurant dans la rue principale du village d'Evelyn en Valais, et c'était exactement son visage. Alors, à discuter entre nous, c'est devenu aussi une évidence ethnique, en se disant, mais on sait bien que des descendants des Mongols sont venus jusqu'aux portes de l'Europe pour chercher des territoires à conquérir, et que certains d'entre eux ont décidé de ne pas repartir, et qu'on dit que certains se seraient établis jusque dans les montagnes du Valais, et bien évidemment se seraient mélangés à la population du lieu, d'où ces visages de déjà-vu, cette impression de déjà-vu face à cette femme sous sa yourte en Mongolie. Les cheveux, eh bien les cheveux longs, épais, bien sûr, comme le dit Jacqueline Thévenet. Ça, c'était une évidence. Je crois qu'on a vraiment rencontré les mêmes Mongols, elle et moi. Il n'y a pas de grand changement. Les femmes et les hommes portent parfois des vêtements à l'occidental, type t-shirt, pantalon ou bien training. Mais ils ont toujours à côté d'eux ce qui fait d'eux les Mongols, c'est-à-dire ce vêtement magnifique qu'est le dil, avec des tissus qui peuvent être soit très brillants pour les femmes, avec des motifs comme celui de la vie ou de l'amitié, de la solidarité, soit tout simplement des tissus de coton ou de laine, plus ou moins épais, on s'en est rendu compte selon les saisons. Évidemment, les vêtements d'hiver sont bien plus épais. Et il y a aussi des signes d'occidentalisation dans la coupe des cheveux. Parfois, les femmes portent des cheveux courts, mais très souvent, c'est le cheveu long avec une queue de cheval, une tresse ou un chignon particulier. Alors la fameuse tache bleue dont parle Jacqueline Thévenet, lorsqu'elle évoque qu'à la naissance, on observe fréquemment au bas du dos la tache mongolique, dit aussi tache bleue, eh bien, en guillemets, je l'ai rencontrée, si je puis dire, puisque j'ai eu la chance de voir plusieurs petits bébés sous les différentes yourtes dans lesquelles nous avons été accueillis, et il y avait bien la dite tache bleue. Alors ne vous imaginez pas un gros point bleu bien vif, bleu azur, non, pas du tout. On sent qu'il y a une tache de naissance qui est un peu sombre, qui est un peu bleuâtre. Paraît-il qu'elle s'efface au fur et à mesure que l'enfant grandit pour disparaître tout à fait chez les adultes. On a tout le loisir d'ailleurs de regarder cette tache bleue parce que la journée, les bébés de tout petit à un certain âge, souvent même j'ai l'impression 5-6 ans, se baladent à cul nu, en tout cas en été, puisque nous étions en été. Le climat le permet bien évidemment, puisqu'il fait fort chaud la journée. Le soir un peu plus frais, mais c'est tout à fait agréable. Donc ces bébés cul nus, ils passent de bras en bras, accueillis par les jeunes comme par les grands-parents. Toutes ces générations sont mélangées de toute façon dans la yourte, et parfois à tel point qu'on ne sait plus très bien qui sont les véritables parents du bébé en question. Et puis, tout à coup, lorsque bébé doit aller dormir, eh bien, on l'emmaillote, mais alors vraiment emmailloté, de sorte qu'il ne peut plus bouger, il a les bras le long du corps, on lui met un grand tissu qu'on lui serre tout autour du corps, avec en plus une ceinture autour, et là, bébé est emmené pour aller dormir, comme s'il était quasiment dans un berceau ambulant, parce que son emmaillotement consiste à le coincer comme dans un berceau. Façon assez étrange de passer de la grande liberté au coincement total. Alors, le caractère. Caractère, disait Jacqueline Thévenet, très joyeux, bon vivant, qui aime boire et festoyer. Alors, nous n'avons pas assisté à beaucoup de grandes fiestas en ce qui concerne nos 3 semaines passées en Mongolie. Mais en tout cas, on a vu que les gens étaient toujours joyeux. C'est vrai qu'il y a, comme je vous le disais, ces yeux déjà, rien que ça qui annonce la joie permanente, les sourires magnifiques. Et puis, le chant, la chanson. Même quant à nous, nous n'avons pas croisé de gens qui jouaient des instruments de musique. Mais eux, ils ont la musique, les chansons aux lèvres tout le temps, que ce soit à cheval ou le soir à l'arrêt, en train de discuter, et pas autour d'un feu, parce qu'on n'en fait pas, il n'y a pas de quoi faire du feu en Mongolie, en tout cas dans la steppe où je me trouvais. Mais ensemble, à papoter, et puis nous en redemandions bien évidemment toujours, parce que c'était tellement magnifique qu'on en avait envie et envie. On s'est même risqué à apprendre quelques paroles, si jamais un jour je me déciderais peut-être à vous chanter les 3 phrases que je connais. Bon vivant, mais surtout aussi quelque chose de magnifique, c'est l'accueil. Où que vous alliez, la porte de la yourte est ouverte et l'hôte se met à la gauche ou à la droite de sa tente. Et c'est à vous d'entrer. Et lorsque vous êtes entré, votre hôte va entrer à son tour. Et à ce moment-là, il vous offrira en signe d'accueil un grand bol d'era qui est le lait de jument fermenté qui sert vraiment de boisson d'accueil dans toutes les yourtes où vous pouvez être accueilli. Et ça, c'est cet accueil incroyable qui fait qu'on ne demande même pas pour entrer dans la tente de quelqu'un. Sa maison vous est d'emblée ouverte et c'est à vous de... Vous devez savoir que la porte vous est ouverte, il vous rejoint ensuite. Alors ça, il faut avouer que pour nous autres Européens, ça nous a surpris plus d'une fois. Quand nous étions le grand groupe à voyager, les tractations visiblement se faisaient un tout petit peu avant que nous arrivions le groupe des cavaliers. Donc on ne se rendait peut-être pas très bien compte de ces façons de faire. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés, plus que Georges et moi, qui est les deux cavaliers européens qui faisions ce trajet, plus nos deux jeunes guides, Bolto et Undrej, je vous dis tous ces noms parce que je crois qu'ils reviendront de temps en temps. Donc Bolto a 20 ans, Undrej a 18 ans et c'est eux qui nous serviront de guides pendant ces 3 semaines, qui s'occuperont de nos 10 chevaux et qui nous guideront aussi bien pour trouver notre route que pour nous rendre la vie la plus agréable du monde, l'agrémenter de chansons superbes, nous apprendre le mongol. Et nous raconter toutes les plaisanteries du monde et nous faire toutes les facéties les plus rigolotes possibles. Alors, lorsque nous arrivions les quatre, eh bien, là, on arrivait les quatre, personne n'avait fait la démarche pour nous avant et c'est là que nous avons vraiment eu parfois la surprise de dire « Mais oui, allez, il faut qu'on entre, c'est ça, c'est évident, c'est comme ça que ça se passe. » Et c'est assez surprenant. Quant à la ruse, la force, l'ingéniosité ou le savoir-vivre, que ce soit des hommes ou des femmes, je dois avouer que les 3 semaines passées dans la steppe ne m'ont pas permis de savoir si les Mongols hommes usent plutôt de ruse que de force. Je n'ai pas vu de démonstration de force, mais pas de ruse non plus. Et quant à l'ingéniosité des femmes et à leur savoir-vivre magnifique, eh bien, ingéniosité, ça c'est sûr. C'est elles qui tiennent la yourte, la maison, et elles sont là en permanence à faire avec 3 fois rien. Il faut vous imaginer une vie qui nous semble magnifique quand on y passe 3 semaines, mais qui certainement, bien évidemment, doit être difficile en été, peut-être un peu moins parce que le climat s'y prête, mais on fait avec peu de choses, mais on le fait magnifiquement et en tout cas comme ça, à voir de l'extérieur et pour quelques semaines, eh bien les gens n'ont l'air de manquer de pas grand-chose. En tout cas, ils ne sont pas en train de réclamer, ne nous demandent jamais rien et on échange le peu qu'on a et ils nous donnent beaucoup du peu qu'ils ont. Il y a juste quelques images magnifiques de gens que j'ai envie de vous faire partager pour terminer ce chapitre sur les gens. Il y a bien d'autres choses à raconter, bien sûr, encore. C'est, je crois, quatre personnages magnifiques, 4 rencontres surtout, parce que c'est pas toujours un personnage, 4 rencontres magnifiques. C'est d'abord à mon arrivée. Je débarque de, je ne sais pas, moi, 11h, 10h, 12h de voyage, Genève, Moscou, Oulan-Bator. Et en descendant de l'avion, en entrant dans l'aéroport d'Oulan-Bator, qui n'est évidemment pas un immense aéroport, mais bon, qui est un aéroport moderne, contemporain, il y a plein de travaux. Et qui sont sur les échafaudages? Une rangée de femmes maçonnes avec aux lèvres un rouge qui claque dans le vent. C'est absolument étonnant. Et je suis restée complètement fascinée devant cette rangée de femmes maçonnes à travailler ou à nous regarder passer les passagers qui arrivions à 8h le matin au lever du soleil et qui mais vraiment arboraient ce rouge à lèvres au cœur de leurs vêtements de travail et de leurs instruments de travail de façon tellement percutante, c'en était vraiment fascinant. Ça, c'est ma première rencontre, ma première image. Et puis, ensuite, il y a la rencontre, bien évidemment, avec Bolto et André, dont je vous ai parlé, nos deux jeunes guides. Eux, c'est leurs yeux rieurs, c'est le sourire en permanence aux lèvres. Et puis, c'est ce visage qui partage sans arrêt, qui a envie d'échanger. On a l'impression qu'on discute et qu'on parle avec eux, même si, en fait, on s'échange trois mots de français pour les uns, trois mots de mongol. C'est plutôt deux mots de mongol pour 10 mots de français, parce qu'ils avaient vraiment quelques pages d'avance sur nous. Et puis, une perspicacité incroyable, effectivement, pour comprendre nos dessins, nos mimes, et tâcher de découvrir le sens des mots que nous employons les uns et les autres. Et une capacité incroyable d'apprendre même les phrases les plus incongrues. Il me semble que je vous ai raconté déjà, la première fois que je vous parlais de Mongolie, cette phrase que nous avons appris à Bolto et qu'il a très très bien compris. « Mini bi bol mini ». Qui veut dire « mon corps est à moi ». Et je ne vous dis pas que, bien sûr, c'était une phrase apprise par un ami qui se moquait bien, en douceur peut-être, admettons-le, mais des propos sur les femmes, et qui avait réussi à apprendre cette phrase à Bolto, qui la sortait fort à propos, puisque si quelqu'un lui faisait remarquer, par exemple, qu'il fumait un peu beaucoup, eh bien il répondait « mon corps est à moi ». En français, je vous prie, dans le texte, dans la réalité. Troisième rencontre, eh bien, elle s'est passée en deux temps. C'est l'arrivée dans un campement où nous allions passer un jour de pause après le troisième jour de chevauchée, épuisés, les jambes lourdes, les muscles douloureux. Et là, accueillis magnifiquement par ce campement de trois yourtes où il y a une grand-mère absolument magnifique. Et cette femme, avec une envie de rencontrer cette bande de gens qu'elle regarde avec étrangeté dans un premier temps, mais dont elle s'approche tout de suite avec une volonté de comprendre, d'échanger, avec rien, des regards, des gestes de la main, puisque pas grand-chose au bout de trois jours encore de mongol dans notre vocabulaire, évidemment rien de français chez elle, mais des regards, des gestes magnifiques d'intégration pour vous emmener boire un érac, pour vous proposer de l'aider à traire les chèvres. Et puis, après cette expérience-là, enfin une soirée, encore j'oubliais, une soirée de fête magnifique où on a chanté les uns et les autres nos chansons, on a échangé nos breuvages. Et puis, on se sépare, 15 jours s'écoulent et on revient à le petit groupe restreint dont je vous parlais. Et là, elle m'accueille, mais quasi comme si j'étais sa fille, en m'accueillant, me serrant dans ses bras, en m'emmenant faire la soupe avec elle et en m'apprenant à jouer un jeu que tout le monde joue là-bas, c'est les osselets, et apprenant avec moi les mots français utilisés dans ce jeu. Alors là, une autre très très belle rencontre avec une personne. Et puis, un jour où très, très fatiguée, après un premier jour de retour à ramener les 10 chevaux avec nos deux jeunes guides et avec mon ami Georges, eh bien, épuisée, arrivée à 10 heures le soir après une dizaine d'heures de cheval, on arrive dans une yourte, ce qui est assez rare. Et là, comme traditionnellement, un homme nous attend à la côté de sa yourte. C'est un vieil homme. Nous entrons dans sa yourte, il nous rejoint. Et là, sur un des lits, siège une très vieille femme, énorme. C'est la seule grosse femme que nous rencontrerons pendant tout notre périple. Avec, comme je vous le disais tout à l'heure, quelques dents qui lui restent et un vieux mégot qui traîne entre ses dents. Et cette femme est incroyable. Elle a un deal un petit peu crasseux. En tout cas, on sent qu'on est dans un endroit, une tente assez pauvre. Et tout à coup, vient se réfugier dans les énormes bras de cette femme, un petit bout de chou, un petit gamin qui a l'air d'un farouche et qui nous fuit comme la peste, qui a surtout très très peur de la barbe de Georges, ce grand escogriffe. On se demande bien où il peut sortir tous ses poils sur son visage. Et on aura beau essayer de l'amadouer, il s'approchera en tout cas ce soir-là absolument pas de nous, malgré les sourires de sa grand-mère, malgré les encouragements qu'elle fait pour qu'il s'approche de nous. Et ce couple magnifique qui nous accueille, qui à 10 heures le soir, prêt à aller au lit, va tout ressortir, refaire du feu, nous faire à manger pour ces 4 cavaliers épuisés, les 2 Européens épuisés, évidemment, jamais de la vie pour Bolto et André, qui arrivent chez eux et débarquent pour demander l'asile, l'accueil dans leur tente. Voilà, 4 rencontres à vous faire partager de mes 3 semaines avec certains Mongols magnifiques.
Shingai